Dans le psaume 139, nous lisons: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu connais toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu accompagnes ma vie par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà pour ce psaume, et puis un second passage que nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, les 6 premiers versets. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Notre Dieu, ta parole est lumière sur notre route, un guide qui dirige nos pas. Alors, pour commencer ce temps de méditation, je voudrais juste faire un petit rappel qui pourrait être utile, Cyrus, ainsi qu'à d'autres ici. Écoutez bien. Le baptême n'a rien de magique. On en avait parlé. Il ne protège personne contre la maladie ou contre les accidents. Non, pas de protection magique ou d'accès particulier à Dieu. Cyrus, si tu ne te nourris pas, il est probable qu'au bout de quelques jours, tu te mettes à dépérir et que tu te retrouves bien vite mal en point, et le fait d'avoir été baptisé, eh bien là, ne t'aidera pas vraiment. Tu ne seras pas devenu un surhomme, désolé. Ça ne fera pas de toi un chrétien non plus. Beaucoup d'hommes et de femmes ont été baptisés et ne se sont jamais posé la question de Dieu après, tout au long de leur vie, ou ont eu des vies qui n'étaient pas vraiment à la gloire de Dieu, on va dire. Et de même, le baptême ne procure pas la connaissance, ni la sagesse, et encore moins la vie éternelle. En même temps, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il n'y a rien à faire pour avoir la vie éternelle, c'est un cadeau de Dieu. La vie éternelle est un don de Dieu à tous les hommes, baptisés ou pas. Mais ce don, ce cadeau, encore faut-il s'entendre dire que nous l'avons reçu, enfin qu'il est à notre portée. C'est ce qu'on appellera probablement l'évangélisation, la mission, le témoignage. Et encore, une fois qu'on l'a reçu, faut-il le déballer, ce cadeau ? Ce qu'on pourrait appeler la conversion, le changement de regard. Jésus a dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors notre projet commun pour toi, Cyrus, notre engagement aujourd'hui consiste à t'amener pas à pas vers cette connaissance de Dieu et te mettre en contact avec l'enseignement d'amour de Jésus-Christ, pour que tu apprennes à construire ta vie sur ses conseils, comme nous le faisons tous ici, et si tu le désires, poursuivre dans cette voie, écouter sa voix pour construire ta vie. Il s'agit en fait de grandir ensemble en Dieu. C'est-à-dire avec toi, sans cesse, grandir dans une connaissance qui est de l'ordre de l'expérience. C'est ce que la Bible appelle la crainte de l'Éternel. Mais là, soyons prudents dans la manière de comprendre cette expression. Parce que nous faisons bien des choses dans la vie parce que nous avons peur. On paye son loyer pour ne pas être expulsé. On prend des assurances pour qu'une maladie ou un accident ne nous ruine pas financièrement. On respecte la vitesse et les parkings pour ne pas avoir d'amende. Et de la même manière, on essaye de ne pas pécher pour que Dieu ne nous punisse pas. Alors du moins, selon certains qui pensent encore, par exemple, que s'il leur arrive des malheurs dans la vie, ou s'il leur arrive des maladies ou des accidents, eh bien c'est que Dieu les punirait de quelque chose. Alors, est-ce cela la crainte de Dieu ? Pas tout à fait. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un lien évident entre la crainte et le bon comportement. En Israël, dans la population très religieuse des quartiers juifs de Mea Shearim, par exemple, n'importe qui, là, un homme, aurait l'impression de déplaire profondément à Dieu s'il prenait le bus assis à côté d'une femme. Et il aurait la crainte que Dieu lui tombe dessus et le punisse, rien que pour ça. Dans ce même quartier, vous recevrez des pierres si vous vous promenez en voiture le jour du Shabbat, ou si vous êtes en vélo le jour du Shabbat. Et pour eux, si vous violez la sainteté du Shabbat et qu'ils ne disent rien, ce serait se rendre complice. Et donc, ils craindraient encore d'être punis par Dieu, indépendamment de votre punition à vous. Voyez, il y a des mille manières comme ça de comprendre Dieu. Tant de manières. Et c'est pourquoi il faut faire une distinction importante. Cette crainte de Dieu dont parle l'Écriture n'est bien sûr pas une terreur superstitieuse devant un Dieu qui nous surveille et qui nous matraquerait dès qu'on fait quelque chose de mal ou qu'on fait une erreur. La crainte de Dieu, c'est plutôt un profond respect et une révérence pour la sainteté de Dieu, le mystère qu'il représente, pour le fait qu'il soit si différent, qu'il soit tout autre. C'est une crainte saine, la crainte de passer à côté de la vie de bonheur que Dieu a pour nous. En fait, c'est ça que la Bible appelle le péché, le passer à côté. Vous savez, ça, péché, c'est passer à côté de la cible, rater la cible. Voilà. Et donc, cette vie de bonheur que Dieu a pour nous, c'est ça, le péché. Et c'est peut-être ça dont on a besoin d'être sauvé. Hein, c'est d'être, quand on passe à côté de nos vies, on a besoin d'être rectifié pour trouver notre bonheur. Et ça pourrait être aussi, d'ailleurs, la crainte de tordre son image. La crainte de trahir sa pensée pour les hommes. Et si nous l'aimons et que nous le cherchons comme nous le prétendons, et bien sûr, c'est une évidence, nous passerons du temps avec lui, dans sa présence, à l'écouter. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, nous rappelle le livre des Proverbes. Alors il s'agit pour nous, communauté, famille, amis, d'un véritable défi pour toi. Parce que pour donner une connaissance de Dieu à un enfant, il ne s'agit pas seulement d'en parler avec lui, mais encore que nos gestes, nos attitudes, nos pensées, nos paroles, nos actions soient conformes à cet enseignement. Sinon, ça ne fait aucun sens dans sa tête. Et c'est là, seulement là, que nos paroles auront du poids face au monde. Le monde qui prêche plutôt que la vie est bien plus facile et bien plus belle sans Dieu. Dans notre monde émancipé de toute relation à Dieu, c'est hélas ce message que Cyrus, comme ceux de sa génération, entendent déjà le plus, très probablement. Et même si notre Cyrus réfléchit déjà très bien sa foi par lui-même, j'ai pu tester ça, la seule chose qui puisse faire un peu contrepoids, eh bien, c'est vous, ses parents, parrain, marraine, tous ceux qui l'entourent, qui auraient beaucoup d'influence sur lui. Et puis aussi le témoignage de chaque croyant, le témoignage de l'Église en général, c'est une lourde tâche C'est une sacrée responsabilité, pour ne pas dire une responsabilité sacrée. On se surveille soi-même, non pas tant parce qu'on craindrait un Dieu, le bâton de Dieu ou quoi que ce soit, mais on se surveille soi-même pour être exemple, des exemples crédibles des enseignements du Christ concernant l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Alors je vous assure que l'attitude souvent irrationnelle de ces religieux dont je parlais, par exemple à Jérusalem, est un témoignage terrible. Quand vous voyez ces chrétiens aussi qui passent des heures au Saint-Sépulcre à Jérusalem à toucher une pierre sur laquelle on aurait posé Jésus à la descente de sa croix et qui passent des heures à toucher cette pierre, à l'embrasser, etc. Je ne sais pas trop quelle image ça donne de Dieu, tout ça. Et il y en a tellement, l'homme est tellement capable de créer des représentations et des images de cette divinité qu'on cherche tous. Et c'est un peu affolant de voir cette diversité, mais il faut faire avec, et toi-même tu auras ta propre image de Dieu, tu l'as déjà en fait, et nous avons tous notre propre image de Dieu. Mais c'est assez terrifiant quand même. Jésus, je ne sais pas ce qu'il penserait de tout ça en fait, quand il voit notre manière de vivre notre foi, nous, toutes nos religions on va dire, toutes nos fois chrétiennes en tout cas. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça donne envie de connaître Dieu ? Ce Dieu qui est esprit et vie, et non pas quelques pierres qui rappellent la mort. Et je crois que c'est de ce genre de religieux et de religion, quelle que soit la religion d'ailleurs, dont il faudrait avoir peur, dont il faudrait avoir la crainte, plus que de Dieu, qui nous dit, lui, 365 fois, une fois pour chaque jour dans la Bible, « ne crains pas ». Alors voilà pourquoi notre attitude doit être le plus possible en conformité avec nos paroles quand on parle d'un Dieu d'amour et de tolérance, de paix. Et voilà pourquoi c'est une véritable responsabilité, non pas de dénoncer les autres, mais d'être nous-mêmes crédibles pour le monde et pour nos enfants. Mais mes amis, endossons cette responsabilité très paisiblement parce que Dieu est avec nous. Il est avec nous parce qu'il s'y engage, lui aussi, aujourd'hui, comme les parents par un marraine se sont engagés, comme tu t'es engagé, Dieu aussi s'engage, il s'est engagé à être avec nous et avec toi aujourd'hui. Il promet le Saint-Esprit à quiconque le lui demande, c'est Jésus qui nous fait cette révélation dans l'évangile de Luc au chapitre 11, il dit ceci, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Demandez le Saint-Esprit, vous le recevrez. Et mes amis, lorsque l'Esprit-Saint nous habite, que fait-il ? Eh bien, on le disait encore dimanche dernier, il nous guide, il nous conseille, il nous inspire, il nous conduit, il nous instruit sur Dieu et sur la vie. Il nous communique l'amour de Dieu pour nous et pour les autres. Il nous donne la force de pardonner là où nous n'y arrivons pas toujours nous-mêmes. Il guérit nos blessures du passé. Il nous relève quand nous chutons. Il nous inspire dans nos choix de vie. Bref, il fait et donne ce qui est le meilleur pour nous. Et comment est-ce possible ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu est Dieu. Et qu'il nous connaît chacun parfaitement. Il sait quels sont nos besoins, il sait comment les combler. Vous pouvez relire ce psaume 139 qui est très clair. Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît chacun de nous parfaitement, il connaît Cyrus parfaitement, comme toi, Stella. Vous êtes des créatures merveilleuses, tous les deux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était écrit dans la Bible, c'est déjà là. Alors il sait comment nous fonctionnons, parce qu'il nous connaît. Il sait ce dont nous avons besoin pour être réparés quand quelque chose nous ralentit ou nous arrête dans notre vie. Je vous avais peut-être déjà raconté cette histoire que j'ai entendue sur la BBC dans une émission, c'était sur les débuts du XXe siècle et les souvenirs de personnes assez âgées qui racontaient. Et là, il y avait un très vieux grand-père qui a raconté qu'à l'époque des premières voitures, son modèle, Ford, a un jour calé au beau milieu d'une petite route aux États-Unis. Toute petite route. Alors le conducteur descend, il fait tout ce qu'il peut pour redémarrer sa voiture, avec sa manivelle, et il tripote un peu les bougies, tout ça. Lorsqu'il y a une limousine qui arrive derrière, comme c'était une petite route, elle est obligée de s'arrêter. Le conducteur descend, il va voir le conducteur qui est en panne, et il lui propose son aide. Donc il soulève le capot, et puis il regarde très vaguement, comme ça, il jette à peine un coup d'œil sous le capot, il touche à peine quelque chose, il dit « Allez-y, essayez !» Et boum, la voiture démarre et ronronne comme un chaton, c'est parti. Et puis, cette personne assez élégante, comme ça, se présente au conducteur de la voiture en panne, il lui dit « Henry Ford, c'est moi donc qui ai conçu et qui ai pensé cette voiture, donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sais quoi faire exactement. » Eh bien, voyez-vous, dans ce psaume 139 que nous avons lu, David dit que Dieu, qui nous a créés et qui nous crée jour après jour, qui nous fait devenir et advenir jour après jour, et qui a un plan pour nous, nous connaît et nous comprend parfaitement. Il connaît nos pensées avant même qu'elles ne surgissent dans notre esprit, et c'est pourquoi nous pouvons nous tourner vers lui avec confiance dans cette grande tâche qui nous attend. Voilà ce que, comme nous tous, Cyrus, tu dois savoir de Dieu, non seulement dans ta tête, mais aussi dans ton cœur, parce que c'est comme ça qu'on connaît Dieu dans la Bible. Le Saint-Esprit, qui est donné gratuitement à tous ceux qui le lui demandent, t'aidera, comme il nous aide jour après jour, dans cette tâche donc de longue haleine. C'est une aventure de toute une vie, ça commence aujourd'hui, mais c'est toute une vie, apprendre à connaître Dieu. C'est l'affaire de toute une vie. Et Dieu, qui nous connaît tous parfaitement, nous donnera en temps utile les éléments, les paroles, les gestes dont nous aurons besoin pour transmettre à Cyrus, mais aussi aux autres dans le monde, toute cette douce teinte, cette connaissance de Dieu. Enfin, Laetitia, Sassan, sachez que l'Église ici sera toujours présente à vos côtés, en tout cas disponible pour vous aider dans cette tâche d'accompagner spirituellement Cyrus. Elle sera toujours là, disponible à chaque fois que vous en aurez besoin, et ouverte à vos questions pour vous accompagner, alors que Dieu nous donne à tous, à chacun, d'être fidèles à nos engagements envers Cyrus et envers tous les enfants de notre communauté, tous ceux de l'extérieur, et qu'il nous aide pas à pas à cheminer ensemble vers la vérité que nous cherchons tous. Amen.